C'est pas parce qu'il me manquait une jambe que j'étais moins bien, que j'étais moins performante, que le fond de ma personne avait été modifié. Et ça, j'ai eu la chance, en fait, de le comprendre très vite parce que j'ai été super bien entourée et que les gens qui étaient autour de moi m'aimaient pour ce que j'étais et non pas pour ce que je représentais ou pour l'utilité que j'avais pour eux.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Marie-Amélie Le Fur, c'est le nom de la femme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer pour ce troisième épisode. Vous la connaissez peut-être, car au-delà d'être une athlète extraordinaire au palmarès complètement fou, c'est une femme engagée dans la sensibilisation au sport et au handicap. Car le handicap, c'est malheureusement un sujet qu'elle connaît. Victime d'un accident de la route à 15 ans, elle est amputée d'une jambe. Et pourtant, avec une volonté de faire et grâce au soutien indéfectible de son entourage, elle est devenue la figure féminine immanquable du handisport avec 25 titres internationaux en athlétisme. Mais ce ne serait pas lui faire honneur que de la résumer à ces titres, car comme elle le dit si bien, le plus important, c'est l'humain. Depuis 15 ans, elle nous prouve constamment que les rêves doivent survivre aux accidents de la vie.
Moi, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, j'ai 30 ans. Je pratique l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait maintenant une paire d'années. Et la particularité, c'est que depuis l'âge de 15 ans, je le pratique dans le mouvement paralympique, puisqu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu un grave accident de la circulation, à la suite duquel j'ai été amputée d'une jambe. Et par chance, au fil des bonnes rencontres, au fil des bons conseils, j'ai pu reprendre la pratique sportive. Et finalement, grâce à mon entourage, grâce aux gens qui étaient vraiment à mes côtés, finalement, on a réussi à faire de ce sport un moteur pour avancer, pour faire des rencontres, pour comprendre le handicap. Et vraiment, aux alentours de l'année 2006, j'ai vraiment choisi d'en faire à très haut niveau avec ma première participation au championnat du monde. Donc, j'ai participé 3 fois aux Jeux paralympiques. Et là, actuellement, j'ambitionne de faire mes 4e Jeux à Tokyo en 2020.
Donc, du coup, t'as un palmarès qui est quand même assez impressionnant parce que tu dis que t'as fait 3 Olympiades. Mais à côté de ça, je crois que tu as 25 titres internationaux, je crois, c'est ça?
C'est possible, pour être honnête. Voilà, on compte pas. Après, on se souvient forcément des médailles d'or parce que ça, notamment aux Jeux. Après, voilà, c'est ce que je dis souvent. En fait, les gens se rappellent les titres et les médailles. Ouais. Moi, je me souviens des émotions humaines et des moments de. Enfin, c'est des images, en fait, qui sont gravées plus que des médailles.
Parce que du coup, effectivement, notre podcast s'appelle Championne du Monde et c'est la première fois, pour le coup, qu'on a vraiment une championne du monde dans le podcast. En l'occurrence, juste pour que les gens se situent un petit peu quand même ton palmarès, je me suis fait des petites notes. Donc, tu es 4 fois championne du monde.
C'est correct.
Et 3 fois championne d'Europe et tu as eu 8 médailles aux Jeux paralympiques.
C'est ça, je crois que les comptes sont bons.
Au niveau des disciplines aussi, parce que du coup, donc, c'est dans l'athlétisme. Tes médailles, on va se focaliser sur les médailles paralympiques, même si toutes les médailles, j'imagine, sont très belles. Ta première médaille, tu l'as eue à Londres sur le 100 mètres.
Première médaille d'or paralympique, voilà. Ouais, 100 mètres à Londres.
Et après, à Rio, donc 2 médailles d'or, une sur 400 mètres et une à la longueur.
Exact.
Super, bon, ça va, j'ai bien révisé. Donc, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a. T'as dit que t'avais commencé l'athlétisme à 6 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé l'athlétisme? Je crois qu'il y a un lien avec ta sœur.
Exactement. Donc moi, je suis pas arrivée par passion, en fait, toute petite dans l'athlé. J'y suis arrivée tout simplement parce que ma grande sœur voulait absolument en faire, mais elle voulait pas en faire toute seule. Donc moi, je l'ai accompagnée, en fait, dans cette aventure, dans cette pratique de l'athlétisme. Puis au bout d'un an, l'athlé, c'est bien, mais j'accrochais pas plus que ça. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, ma sœur, mes parents m'ont encore encouragée à continuer. Et puis derrière, en fait, j'ai vraiment appris à aimer ce sport, à le comprendre. J'étais en situation de réussite, donc déjà forcément, ça facilite l'amour d'un sport. Et derrière, en fait, il y avait une notion de dépassement de soi. Il y avait une notion aussi de lien social, puisque j'avais des amis dans ce sport-là que je ne retrouvais pas au collège ou après au lycée. Donc, c'était vraiment important pour moi, socialement et physiquement parlant, de pratiquer du sport, et notamment ce sport.
Du coup, dans ta famille, le sport, c'est quelque chose dans lequel tu as été élevée ou c'est t'as suivi juste ta sœur parce qu'elle avait envie de faire ça. C'est le côté. C'est marrant parce que dans les interviews d'avant, souvent les femmes nous disent qu'elles sont dans un environnement familial qui est déjà sportif à la base. Et c'est ce qui fait que c'est par leur papa, par voilà, c'est ça qui les a amenées par le sport. Toi, ça a été le cas ou pas forcément?
C'est vrai que je suis issue d'une famille très dynamique, très sportive. Maman faisait de l'athlétisme quand elle était plus jeune. Papa a fait du foot pendant de nombreuses années. Donc vraiment cette culture, voilà, du dépassement de soi, de l'activité physique, c'était quelque chose qui était vraiment présent dans le foyer. Après, là où moi je trouve que j'ai reçu une très belle éducation, c'est que mes parents, ils m'ont toujours accompagnée. Ils m'ont jamais poussé, ils m'ont jamais forcé. C'était vraiment voilà selon mon plaisir, selon mon envie. Eux étaient vraiment à l'écoute de ce que j'avais besoin, de ce que j'avais envie de faire. Et puis une année, j'ai voulu faire du tennis à côté de l'athlète. Ils m'ont inscrit dans un club de tennis. Donc voilà, pour eux, l'idée c'était vraiment que je sois heureuse. Et puis quand je gagnais des petites courses, bah ils étaient très heureux. Quand je gagne les jeux, ils sont très heureux pour moi aussi. Mais le jour où je leur dis que j'arrête, que j'ai plus envie, bah finalement ils comprendront parce que ça reste des parents voilà qui sont aimants et qui ont juste besoin que je sois heureuse.
Le sport, si je comprends bien, au final, si tu l'as continué, c'est aussi vachement à cause du lien social, plus que de la performance et de la réussite, en fait, au final.
Vraiment, ouais, quand j'ai décidé, en fait, derrière l'accident de recourir, en fait, c'était un besoin. J'avais besoin de cette sensation de la course et de retrouver, effectivement, mes amis. Donc ça, c'était vraiment mes deux moteurs. Après, fallait s'affranchir de la contrainte matérielle, de la possibilité, de la vie des médecins. Donc ça, c'est vraiment des épreuves qu'on a traversées ensemble avec la famille. Mais j'en avais besoin et je pense que ça a été très utile pour moi parce qu'en fait, à l'âge de 15 ans, mon schéma corporel, il a été totalement bouleversé parce que j'ai perdu une jambe. Donc forcément, d'un jour à l'autre, mon corps s'est mis à fonctionner totalement différemment. Et je pense que grâce au sport, j'ai pu mieux comprendre ce schéma, j'ai pu mieux l'appréhender et surtout, j'ai pu découvrir mes propres limites. Parce que c'est aussi le souci du handicap, c'est que tout le monde veut vous fixer vos limites parce que vous rentrez dans la case de la personne handicapée et que donc vous devez fonctionner comme ça. Sauf que chaque personne est différente. On est tous différents, on vit tous son handicap différemment et finalement, les potentiels et les capacités de chacun sont différentes et le sport permet vraiment de l'appréhender.
Tu disais que ça avait modifié ton corps forcément. Toi, tu avais 15 ans du coup quand il y a eu l'accident, tu étais en pleine adolescence, on va dire. Quel a été ton lien à ton corps après l'accident en fait?
En fait, c'est vrai que j'accorde de l'importance à la façon dont le corps modèle le corps et permet de le maintenir en bonne santé, en bonne esthétique. Mais pour autant, en fait, à l'âge de 15 ans, je m'en fichais un petit peu de perdre ma jambe. Parce que j'étais pas vraiment attachée à cette esthétique-là.
D'accord.
Pour moi, l'esthétique d'avoir deux jambes, alors oui, c'est plus joli, mais le fait d'en perdre une, en fait, ça ne me dérangeait pas esthétiquement parlant, en tout cas à l'œil, hein, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, et surtout c'était pas quelque chose qui me faisait perdre confiance en moi. Voilà. C'est pas parce qu'il me manquait une jambe que j'étais moins bien, que j'étais moins performante, que le fond de ma personne avait été modifié. Et ça, j'ai eu la chance en fait de le comprendre très vite parce que j'ai été super bien entourée et que les gens qui étaient autour de moi m'aimaient pour ce que j'étais et non pas pour ce que je représentais ou pour l'utilité que j'avais pour eux.
Donc c'est vraiment ton entourage en fait qui t'a permis d'avoir cette... Parce que c'est quand même incroyable à 15 ans d'avoir déjà cette réflexion hyper mature en fait. Enfin, c'est se dire finalement mon corps change mais finalement ma personne ne change pas. Et de garder cette force de caractère incroyable.
Ouais, en fait, l'entourage est vraiment déterminant dans un moment comme ça, dans un accident comme ça. Et moi, j'ai eu la chance, enfin, je sais que je vais te dire 45 fois la chance, hein, mais c'est vraiment le cas. Hein, mais voilà, j'ai eu la chance d'être entourée d'une famille qui m'a fait comprendre que dans cet accident, j'avais perdu une jambe, mais j'avais pas perdu l'essentiel de ma vie. J'avais pas perdu l'essence même de ma vie, qui était un jour de travailler, un jour de fonder une famille. Voilà, tout ça, c'est ce qui m'animait, c'est ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin. Et finalement, c'était pas avec une jambe en moins que je pourrais pas le faire. Et dès l'instant qu'en fait, on accepte que la vie, elle sera différente, mais qu'on a les cartes en main pour pas qu'elle soit moins belle, en tout cas avec mon handicap, c'est possible, bah finalement, on se crée un chemin différent et qui sera tout aussi beau parce qu'on va faire de belles rencontres, parce qu'on va faire de beaux projets, parce qu'on va explorer des mondes qu'on ne connaissait pas. Et le monde du handicap est vraiment un monde merveilleux dans lequel on fait d'énormes rencontres, dans lequel on prend juste des claques sur les parcours de vie et qu'on se dit que finalement, bah on a eu la chance de vivre ça parce que derrière, on rencontre des gens extraordinaires.
Sur ta carrière sportive, parce qu'à la base tu voulais pas du tout être sportive professionnelle, c'était pas ta volonté plus jeune, est-ce que tu penses quand même que le fait d'avoir eu l'accident et de t'être en partie reconstruite par le sport, ton accident a fait que tu as voulu devenir sportive professionnelle ou À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais vraiment faire ça mon métier, entre guillemets, parce qu'on en parlera après, mais t'as quand même un métier à côté.
En fait, c'est les circonstances qui ont fait de moi une athlète de haut niveau, une athlète semi-professionnelle. C'est en fait quand j'ai fait les championnats du monde en 2006, ouais. où la sélection était pour moi un peu une surprise. Et lors de ces championnats, donc ça faisait 2 ans pour moi que j'étais en situation de handicap. Et finalement, je ramène 3 médailles d'argent au niveau élite. Donc là, je comprends en fait que les jeux, c'est possible, que gagner une médaille d'or aux jeux, c'est envisageable. Et c'est vraiment à ce moment-là. Donc c'est parce que au travers de rencontres, au travers de championnats, j'ai compris qu'il y avait un potentiel à exploiter, que je me suis vraiment engagée dans ce milieu-là. Après, si j'étais restée valide, je ne sais pas si j'aurais eu cette prise de conscience, je ne sais pas si j'aurais eu cette envie, je ne sais pas si j'aurais eu ce besoin. Et ça, on ne peut vraiment pas le savoir parce que avec des si, on referait tellement de choses.
C'est sûr.
Et c'est impossible d'avoir la réponse à cette question.
Donc, on disait effectivement que t'es sportif professionnel, mais pas que. Tu travailles à côté, donc pendant plusieurs années, tu as travaillé chez EDF. Là, donc récemment, en mi-décembre, je ne sais plus où je l'ai noté. Raconte-nous du coup quel est ton nouveau métier, ce sera plus simple.
Donc effectivement, en fait, j'ai toujours fait le choix d'avoir une activité à côté de mon sport. Donc pendant un temps, j'ai fait mes études puisque j'ai un master en STAPS. Et il y a juste en fait l'année de Londres où j'ai eu la chance d'être sportif professionnel puisque j'étais en contrat avec EDF mais détaché à 100%.
D'accord.
C'est idyllique, hein, j'ai envie de vous dire. Vous faites que votre sport, vous êtes payé pour ça. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que socialement, ça répondait pas à ce que j'avais besoin et ce que j'avais envie. Et le fait d'être enfermé dans la performance sportive, c'était très compliqué pour moi et j'avais besoin d'exister pour autre chose socialement, de faire autre chose à côté de mon sport. Et j'ai eu la chance en fait d'être entendue par la société EDF. Et en fait, en 2013, j'ai commencé à travailler pour la centrale qui est juste à côté de Blois, donc où moi je vis. Et j'ai pu avoir en fait un emploi du temps aménagé à mi-temps, c'est-à-dire que la moitié du temps je travaille et l'autre moitié du temps je m'entraîne. Donc c'est vrai que ça génère beaucoup de fatigue parce qu'on a moins de temps de récupération, parce que l'emploi du temps est beaucoup plus contraint. Mais pour autant, mentalement, ça permet de se détacher un peu de l'obligation de réussir dans le sport. Ça permet socialement d'avoir d'autres discussions que sa propre performance et la réussite au jeu. Et moi, j'ai trouvé que ça m'avait permis en fait de mieux contrôler mon stress.
D'accord.
Donc ça a été une réalité pendant 5 ans. Et là, tout récemment, effectivement, le poste de président du Comité paralympique et sportif français s'est libéré puisque Emmanuelle Haussmann, qui était l'ancienne présidente, a décidé de partir pour des raisons professionnelles en cours de mandat. Et c'était une très belle opportunité. Moi, je suis amoureuse du mouvement paralympique. C'est un mouvement qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a ouvert énormément de portes. Et finalement, au travers de discussions, notamment avec Emmanuel, j'ai trouvé que c'était une opportunité finalement magique de lui rendre tout ce qu'il m'avait donné. Donc voilà, depuis la mi-décembre, maintenant, je suis présidente du Comité paralympique et sportif français. C'est une très belle aventure humaine. C'est énormément de responsabilités, donc j'espère vraiment être à la hauteur de tous les challenges qui sont à mener et tout ça en parallèle de la carrière sportive.
Et donc concrètement, quel est ton rôle dans ce nouveau poste ?
Donc le rôle, mon rôle c'est d'être présidente, donc c'est la coordination, c'est le management, c'est finalement d'impulser la dynamique. J'ai la chance d'être entourée pour l'instant d'une équipe de 6 salariés. Le comité a l'ambition de s'étoffer, notamment avec un déploiement régional courant 2019-2020. Et le but vraiment du comité, si on veut le résumer, c'est dans un premier temps, c'est d'emmener la délégation aux Jeux paralympiques, que ce soit les Jeux d'été ou d'hiver. Donc tout ce qui est la coordination, la gestion logistique de la délégation. Et son deuxième rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'appuyer, de coordonner l'ensemble du mouvement paralympique. Il faut savoir qu'il y a quelques années, nous n'avions que 3 fédérations au jeu. Maintenant, nous avons 11 fédérations qui ont la délégation et qui pourront emmener un athlète à Tokyo 2020. Nous avons 36 fédérations qui sont membres du comité paralympique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'outiller, d'accompagner, de conseiller ces fédérations pour qu'elles construisent des projets qui soient à même d'accueillir des personnes en situation de handicap, qui soient pertinents, qui aide à leur accompagnement, qui aide aussi tout simplement à leur détection jusqu'au travail de la haute performance.
Parce que du coup, toi, c'est vrai que je repars sur tes 15 ans, mais quand il y a eu l'accident et qu'on Est-ce que tu t'es tout de suite dit que tu avais la possibilité, même en étant handicapé, de continuer le sport de haut niveau? Parce que ça, je pense qu'effectivement, il y a peut-être d'autres gens en situation de handicap qui ne sont pas encore forcément conscients de ça. Toi, c'est quelque chose dont tu as été consciente tout de suite?
Alors moi, mon ambition, quand j'ai repris la thèse, c'était pas de faire du sport de haut niveau. C'était de refaire, de sport. Recourir. Je voulais juste recourir. C'était vraiment mon envie. Et je savais que c'était possible parce que un an avant, de façon totalement comme ça opportune, j'avais découvert la course en situation de handicap et notamment la course des amputés hommes. D'accord. Parce que j'étais allée aux championnats du monde de 2003 qui se sont déroulés au Stade de France. Et j'étais dans les tribunes et en fait, il y a eu une course de démonstration par des athlètes debout masculins. Mmh. Et dans cette course, il y avait deux hommes qui étaient amputés. Donc, c'est vrai qu'un D'accord. an avant, cette image, elle m'a marquée. Mais en même temps, je l'ai pas forcément utilisée sur le moment. Sauf qu'un an plus tard, quand on m'a dit, il y a des risques que vous soyez amputés, je me suis dit, mais de toute façon, même si je suis amputée, je pourrais recourir. C'est possible.
Parce que tu l'avais vu.
Parce que je l'avais vu. Et c'est aussi en ça, finalement, qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à la médiatisation du mouvement paralympique, par rapport à la médiatisation des Jeux de Paris 2024. Ouais. Parce qu'on sait qu'au travers de ces images, par rapport au message qu'on va passer, par rapport à la communication qu'on va pouvoir faire, on va créer le champ des possibles. Mmh. On va rendre, en fait, cette pratique possible, on va la rendre accessible. Et les gens sauront que, quel que soit leur handicap, quelle que soit leur difficulté, eh ben, y a un sport qui sera fait pour eux pas très loin de chez eux.
Parce que effectivement, je vois en regardant un peu tes actions, tu es extrêmement investie dans les causes associatives et particulièrement la sensibilisation au sport et au handicap. Tu fais aussi, tu as fait, je crois, beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Donc toi, c'est vraiment ta volonté aussi de dire aux enfants, valides ou non, que ça existe, que c'est possible, que même quand on est handicapé, on peut faire du sport, que voilà, c'est un de tes combats.
Oui, c'est vrai que ça a été un combat pendant de nombreuses années, très important pour moi, tout simplement pour rendre tout ce qu'on m'avait offert, tout ce qu'on m'avait donné. Donc j'ai énormément investi dans le monde associatif pour essayer d'accompagner finalement les jeunes à accéder à la pratique et loin de moi de penser que chaque enfant a envie de faire de la compétition. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le début de la pratique sportive. Après, l'enfant, le jeune fera son choix entre compétition ou loisir. Ça doit vraiment relever du choix. Mais déjà, le jour où chaque enfant sera en possibilité près de chez lui de faire une activité et que s'il n'en fait pas, c'est simplement parce qu'il l'a décidé, on aura déjà fait un grand pas en avant. Après, voilà, donc marraine d'association, j'essaie aussi de... effectivement d'aller dans le milieu scolaire pour parler aux enfants du handicap, parce que finalement c'est en parlant très jeune de la différence du handicap qu'on casse un peu les préjugés, les tabous, les stéréotypes qu'on voit apparaître quelques années plus tard. Et si les enfants d'aujourd'hui sont aguerris sur la notion de différence et n'ont pas peur du handicap, c'est des adultes de demain qui l'auront inscrit dans leur ADN, et quand ils seront managers, quand ils seront architectes, bah finalement le handicap il fera partie de leur quotidien. Donc voilà, un grand combat que malheureusement je dois diminuer suite à mes engagements au Comité paralympique et sportif français. Mais finalement, c'est une simple continuité, voilà, d'un engagement pour ce mouvement. Maintenant, je le fais différemment. Je le fais plus d'un point de vue, on va dire, fédéral et politique. Ouais. Mais en tout cas, on sait que le tissu associatif est une priorité pour le sport, pour le mouvement sportif, mais également pour le mouvement du handicap. Et c'était un juste retour, encore une fois, de ce que j'ai reçu que de m'investir pendant quelques années.
Et tu vois vraiment une évolution depuis quelques années sur la perception qu'ont les gens du handisport, en termes de médiatisation, etc. Tu as vu vraiment une évolution sur ces dernières années?
Oui, on voit une évolution. Hein. Déjà, qui, il y a 10 ans, connaissait le mot paralympique? Voilà, c'était c'est encore un mot qui n'est pas encore assez connu, hein, parce que souvent, on le voit un petit peu tronqué. Hein, donc, je vous rappelle, c'est paralympique. Hein, il n'y a pas de O qui traîne au milieu. mais on est là, en fait, pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux gens, pour leur montrer notre notre monde, c'est ses spécificités, ses difficultés, offrir de la compréhension, je pense que c'est ça, il faut qu'on travaille pour offrir de la lisibilité, mais pour autant les gens ont envie, sont prêts à accueillir finalement cette notion de sport et handicap, mais il faut pas qu'on lâche, parce que les bases qui ont été posées depuis quelques années, elles sont pas encore totalement solidifiées, elles sont quand même volatiles sur certains points, donc il faut vraiment qu'on continue à apporter ce dialogue, à apporter ce message pour que le handicap, en fait, il rentre petit à petit dans le quotidien de chacun et qu'on arrête vraiment d'en avoir peur.
Est-ce que toi, en tant qu'athlète, tu trouves que ta vision du sport est différente en tant qu'athlète handicapé par rapport à des athlètes dits valides? Et est-ce que ces valeurs, etc., cette vision du sport qu'on peut avoir dans le côté paralympique est différent fondamentalement, toi qui es dedans, de l'aspect sportif valide?
Non, je pense qu'on est vraiment sur les mêmes valeurs, hein, qui sont le dépassement de soi, l'abnégation, la notion de sacrifice, de partage, d'émotion. Tout ça, en fait, c'est des valeurs vraiment qui sont présentes également dans le mouvement paralympique et qui réunissent l'ensemble des sports. Après, la spécificité qu'on a, c'est qu'on pratique différemment. Moi, j'ai une notion mécanique que je dois inclure dans mon sport et qui fait que ma pratique sportive a changé. Techniquement, je dois également changer un petit peu mon geste parce que je vais pas demander la même chose à ma prothèse que je vais demander à ma jambe valide. Ouais. Donc tout ça, c'est des particularités, mais la préparation d'un athlète paralympique est exactement la même qu'un athlète valide. Et même si la densité des athlètes présents aux Jeux paralympiques est plus faible, si on veut réussir, si on veut aller chercher des records du monde, des médailles, il faut s'investir comme un athlète de haut niveau dans la charge d'entraînement, dans la récupération, dans la vie à côté. Voilà, c'est exactement les mêmes sacrifices. Et on essaie vraiment d'éduquer, d'élever nos jeunes, notamment ceux qui sont en pôle ou actuellement dans les clubs, à cette notion de, voilà, si tu veux un jour être champion paralympique, c'est dès maintenant qu'il faut travailler. Et ça va être des heures et des heures d'entraînement, ça va être beaucoup de travail, il va falloir franchir des étapes et ce ne sera pas quelque chose de simple.
Toi, je me suis un peu renseignée quand même avant de faire cette interview. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'interviews de toi sur Internet. Tu es quelqu'un d'extrêmement médiatique. Au final, tu n'es pas avare de ton temps. Tu donnes énormément de temps à des gens pour justement parler du handicap, éduquer là-dessus. Et c'est vrai que je pense, de mon point de vue, effectivement, que tu es une des personnes les plus médiatiques dans le handisport actuellement. Pourquoi tu as cette volonté tellement justement d'utiliser ton image en quelque sorte, alors que tu pourrais, au détriment peut-être j'imagine aussi un peu de ta vie privée, pourquoi tu veux tant pas te mettre sur le devant de la scène, mais en tout cas d'utiliser ton image pour faire passer ces messages-là?
Alors déjà, je suis très heureuse de que ça a été compris dans ce sens-là. Ça me rassure. Mais en fait, c'est la continuité de l'engagement associatif. En fait, je sais que j'ai la chance de bénéficier d'une certaine notoriété. Ouais. Et au travers de cette notoriété, c'est vraiment pour passer un message. Mmh. Et le message vraiment ultime que je veux passer, c'est celui du possible. C'est-à-dire que même un enfant qui ne peut pas bouger les bras, qui est vraiment prisonnier de son corps et qui n'a que la tête qui bouge, il y a un sport qui existe pour lui. Et l'activité physique et sportive, elle est utile pour toutes les personnes en situation de handicap parce qu'elle permet de sortir de l'isolement social, parce qu'encore une fois, elle permet de mieux se connaître, de connaître ses limites, de développer des compétences. Et c'est vraiment pour ça que j'utilise ma notoriété, que je m'investis, parce que j'ai envie que chaque personne en situation de handicap reçoive ce message. Après, j'ai la chance de ne pas être toute seule à le faire. Et il y a vraiment des très, très beaux sportifs qui, chacun à leur manière, finalement, vont porter cette parole-là. Et je pense que le plus beau message qu'on passe, c'est au travers de nos performances. Voilà, de vraiment casser ses codes, de montrer on est en fauteuil, oui, il en manque un bout, oui, on fait un sport différemment, mais pour autant, on vous procure tout autant d'émotions, parce que ce qu'on vient chercher, c'est de la performance. Donc finalement, tout ce que l'on vit dans le sport, c'est transposable dans la vie de tous les jours, c'est transposable dans l'entreprise. Donc vous aussi, changez votre regard vis-à-vis du handicap. Voilà, c'est vraiment l'idée de tout ça.
Parce qu'au final, donc toi, tu mets un point d'honneur à utiliser ta médiatisation pour passer ces messages-là. Effectivement, là, en ce moment, donc, Marie Bochet, par exemple, je prends l'exemple, qui, cartonne au championnat du monde en ce moment, qui a déjà 2 médailles d'or, si je ne m'abuse, sur ces derniers championnats du monde. On en entend moins parler, par exemple, alors que finalement, elle est ultra médaillée. Je trouve que ça reste encore plus de niche. Au final, elle n'utilise pas trop non plus son image, etc. Alors que pareil, elle pourrait avoir cette visibilité-là. Comment tu l'expliques ? Parce qu'au final, effectivement, je pense que la majeure partie des gens, si on leur demande malheureusement de citer des athlètes, des athlètes handicapés, il y en a. Je pense malheureusement qu'encore maintenant, il y en a peut-être très peu qui seraient capables d'en citer. Quel est ton point de vue là-dessus ?
C'est vrai que le nombre d'athlètes handisport ou paralympiques qui sont connus est pas forcément très grand. Et mais tout comme finalement, on nous demandait de citer un rameur ou un kayakiste ou un escrimeur médaillé aux Jeux, hormis 2-3 figures très emblématiques, c'est très difficile de les citer. Donc en fait, on va dire qu'on subit la même difficulté que plein de sports mineurs, c'est-à-dire qu'en dehors des Jeux, nous n'existons pas. Alors je partage pas forcément le diagnostic par rapport à Marie, hein, parce que moi je trouve que Marie, c'est un des noms qui est connu, qui est repris. Alors là où je suis d'accord, c'est que avec le palmarès de dingue qu'elle possède, parce que là on peut pas dire les choses autrement.
C'est complètement dingue.
Elle a juste un palmarès de fou. Elle est juste géniale et elle nous habitue tellement à la réussite que quand elle y arrive pas, mais je sais même pas si ça lui arrive ça en fait.
Mais
elle a une super personnalité et je pense que sur le temps qu'elle a, elle essaie vraiment de le mettre à profit. Voilà, malheureusement, on sait aussi que ça c'est une réalité. Les sports d'hiver existent moins que les sports d'été. Le dispositif des Jeux d'hiver est pas tout à fait le même que celui des sports d'été. Mais je pense que quand même Marie, voilà, a un discours, une image qui est beaucoup reprise parce que très positive. On voit également actuellement, Arthur Baucher, on voit Benjamin Davier, voilà, qui sont aussi de l'équipe d'hiver, qui sont des noms importants, qui parlent plus dans notre milieu. Mais pour autant, je peux vous dire que même s'ils le font pas à grande échelle, ils font rêver énormément d'enfants et qu'il y a beaucoup de futurs Arthur, Marie ou Benjamin qui sont en train de se construire petit à petit et qui rêvent derrière leur télé ou même derrière leurs réseaux sociaux.
Effectivement, il y a des exemples en ce moment comme Mickaël Gervaz, qui est aussi maintenant chroniqueur sur France Télévisions. Dans stade 2, je crois, maintenant, depuis peu au final. Donc, finalement, les choses évoluent quand même et bougent. Et je crois qu'il est aussi également investi dans le comité olympique, etc. Donc,
C'est vrai que Mika, c'est vraiment une ou la figure emblématique. Il a fait un travail en tant que porte-drapeau qui était juste énorme avant les Jeux de Rio parce que. C'est du temps, c'est de la fatigue, donc forcément c'est du côté sportif qui est un peu mis de côté, et c'est en ça que je l'admire, c'est que il a su finalement se faire passer en sportivement au second plan, et c'est vraiment pas une critique quand je dis ça, parce que c'est aussi une sacrifice de l'ego du sportif quand on sait la carrière qu'il a eue, de se dire ok, là je vais lâcher un peu d'énergie, mais par contre je vais le faire pour mon mouvement, parce que si j'accroche pas les téléspectateurs avant les Jeux, bah il y a moins de gens qui regarderont. Et lui, il s'est investi, il a fait des passations, c'est quelqu'un qui sait utiliser les médias, c'est un showman, Mika. mais ça fait du bien parce que ça montre une autre image en fait. Voilà, il casse les codes, c'est cette image qu'on a de la personne en fauteuil, et je pense que ça fait du bien, ça bouscule un petit peu les gens, la première fois qu'on le rencontre ça peut être un peu perturbant, mais derrière je pense que quand on regarde le retour du public, les gens l'adorent.
Bien sûr.
Et c'est quelqu'un qui, derrière son côté très, très dynamique, très punchy, va aussi avoir une qualité de réflexion et va avoir les bonnes remarques pour faire avancer le mouvement dans le fond des problèmes. Donc voilà, donc on a la chance encore une fois d'avoir de très belles personnes dans le mouvement. Malheureusement, elles ne sont pas toutes aussi connues que Marie, que Mika. Et je peux vous dire que des belles personnalités, il y en a beaucoup d'autres qui se cachent dans nos sports.
Tu disais que Mika lui avait mis un peu sa carrière entre parenthèses de sportif. Toi, au final, c'est pas le cas. T'avais dit après les JO de Rio que tu ferais une petite pause. Finalement, tu te remets en selle. Qu'est-ce qui te motive encore après tous ces titres que t'as eus ?
L'humain. C'est vraiment l'humain en fait qui me motive. Donc forcément, la question s'est posée derrière Rio. Est-ce que j'avais envie de repartir ? Est-ce que c'était judicieux ? Donc oui, sportivement, j'avais envie de repartir parce que je savais qu'il y avait encore des choses à faire, qu'il y a encore du potentiel d'amélioration et qu'on peut encore perfectionner ce système d'entraînement, cette technique, notamment sur la discipline de la longueur sur laquelle je serai exclusivement concentrée à Tokyo. Et puis humainement, j'avais envie de vivre énormément de choses, notamment avec la jeune génération. Moi, j'ai un besoin de transmettre, de partager, de encore une fois de redonner tout ce que moi j'ai pu recevoir. Et tout comme finalement les anciens de l'équipe m'ont aidé quand j'ai eu mon accident, m'ont accompagné, m'ont drivé sur les premières compétitions. Bah, j'ai envie, si les jeunes en ont envie, bien sûr, j'ai envie de les accompagner, voilà, dans leurs premières armes, dans leurs premières compétitions, dans leurs entraînements, dans leurs doutes, dans leurs difficultés, dans les questions qui se posent. Et on sait que nous, les anciens athlètes, on n'est pas des coachs, on n'est pas les sélectionneurs. Et finalement, bah, ça permet d'avoir un dialogue beaucoup plus libre où les jeunes, ils nous confient un peu leurs doutes, leurs questions. Et ça permet de parler librement et finalement de résoudre des petits conflits ou des petites difficultés qui peuvent s'amorcer.
Parce que du coup, pour revenir aussi sur ton parcours, l'année dernière, tu es tombée enceinte, tu as médiatisé ta grossesse. Malheureusement, à 8 mois de grossesse, tu as perdu le bébé. Donc, c'est vrai qu'à cette période-là, tu avais mis entre parenthèses ta carrière sportive. Finalement, est-ce qu'aussi cette épreuve que tu as encore dû surmonter, ça t'a relancé aussi sur des défis sportifs à faire derrière ? Parce que c'est vrai qu'on a un peu, on a l'impression que dès qu'il t'arrive une épreuve en tant que femme, la femme sportive réagit derrière, en fait, que, comme si c'était encore plus un moteur pour réussir des performances sportives. Parce que du coup, effectivement, pour l'information également, c'est que tu as perdu ce bébé au mois de mars et au mois d'août. Tu battais le record du monde sur la longueur à plus de 6 mètres, ce qui est juste complètement dingue à peine 5 mois après cet événement-ci. Donc, d'où tu tiens cette force-là ? Effectivement, est-ce que ces épreuves-là, elles te nourrissent finalement dans ta carrière de sportive ?
Alors, je pense pas qu'on puisse parler de nourrir. Oui. En tout cas, dans cette épreuve-là, qui a vraiment été la plus dure qu'on ait eu à surmonter. Déjà, encore une fois, il y a l'entourage, la présence, hein, qui permettent de se reconstruire. Et comme j'avais énormément de mal, malgré tout ça, quand même, à avoir un point de sortie par rapport à ce qui nous arrivait, ouais. Finalement, le sport est apparu comme une évidence pour m'en sortir à court terme. Parce que je suis pas non plus bête, je suis pas folle, je vis pas avec des œillères. Je sais très bien que le sport n'effacera jamais ce qui s'est passé, n'effacera jamais la blessure que l'on a connue. Mais en tout cas, sur les premiers mois, c'est vraiment un besoin que j'ai eu, c'était de redriver ma vie avec un objectif qui était ambitieux, qui était une participation aux Europes. Voilà. Donc ça a nécessité, puisque j'ai eu 2 mois d'arrêt derrière la perte de notre bébé, d'arrêt sportif, ça a nécessité de se reconstruire en 4 mois pour atteindre un niveau international et finalement prise par le défi, prise par l'envie, soutenue par un collectif extraordinaire, ça a sorti une belle perf. Après, je sais très bien que le sport est très beau, gagner des médailles c'est beau, battre des records aussi, sauf que je serai pleinement heureuse le jour où je porterai mon enfant dans les bras. Donc sur ça, je suis honnête avec moi-même, ma famille le sait et c'est le plus important, parce qu'encore une fois, gagner des médailles, c'est beau, mais ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est l'humain. Voilà. Donc, voilà, il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. On ressort toujours plus fort des épreuves qui nous arrivent. En tout cas, elles doivent pas nous laisser inchangés. Donc, nous, l'idée, c'est de comprendre en quoi ce drame finalement va nous faire avancer dans la vie, en quoi il peut nous faire prendre conscience que notre mode de fonctionnement n'était pas idéal, pour le modifier par la suite et puis finalement essayer au maximum de vivre pleinement heureux.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant qu'athlète et en tant que femme sur les mois à venir ou même les années à venir jusqu'à Tokyo 2020 et après ?
En tant que femme, forcément, c'est de continuer à être dans cet objectif de construire une famille. Et vraiment, sportivement, c'est le titre et la médaille d'or, pardon, et le record du monde à Tokyo en 2020 sur la discipline de la longueur. Et puis, sans oublier la casquette de présidente qui, elle, a vraiment envie d'emmener une très belle équipe de France à Tokyo en 2020. Et notamment de s'inscrire aussi dans la construction de la jeunesse pour Paris 2024 et de ramener plein de médailles sur ces jeux à notre maison.
On vous le souhaite en tout cas. Et j'aurais une petite question aussi qui est en lien avec le podcast, mais notre podcast s'appelle Championne du Monde. On demande à toutes nos championnes justement quelle est leur définition d'une championne.
Pour moi, une championne ou un champion, c'est quelqu'un qui va au bout du rêve qui s'est fixé. En tout cas, du rêve ou de l'ambition. Peu importe ce rêve, peu importe cette ambition, peu importe que ce soit une ambition culturelle, sportive, personnelle. Mais l'idée, c'est vraiment, pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui va se dépasser, qui va se mettre des objectifs difficiles, qui va se mettre de l'ambition, et qui, quand il regarde en arrière, se dit, ouais, bah là j'ai pas réussi, mais la prochaine fois j'y arriverai, ou qui regarde en arrière et qui a réussi, qui se dit ok, maintenant c'est quoi le prochain défi. Voilà, pour moi ça c'est vraiment le caractère d'un champion. Et encore une fois, on n'a pas besoin de tous viser la compétition ou le titre de réel champion du monde pour être un champion. C'est vraiment une définition très personnelle. Dès l'instant qu'on se met des challenges, qu'on va se challenger ses limites de confort et qu'on se met un peu dans la difficulté, je trouve qu'on est tous les champions du quotidien.
Mais écoute, c'est une définition qui te résume aussi très très bien, parce que tu es une magnifique championne.
Merci.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce temps-là, et on te souhaite énormément de bonheur dans les mois à venir, dans ta carrière professionnelle et aussi personnellement. Et puis on croise les doigts pour Tokyo 2020 du coup.
C'est gentil, merci. Et puis en espérant voilà, avoir de nombreux supporters pour ces futurs jeux.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.